Jésus dit, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont souhaité voir ce que vous voyez et ils ne l'ont pas vu, et d'entendre ce que vous entendez et ils ne l'ont pas entendu. Et nous, Dieu notre Père, verrons-nous, entendrons-nous ? Nous voici comme les disciples pour regarder et pour écouter. Ouvre donc les yeux et les oreilles de notre cœur, ceux de notre intelligence, ceux de notre volonté, de telle sorte qu'ayant vu et entendu, nous puissions marcher à la suite de ton Fils, notre Maître. Je vous invite à vous lever. Ô Dieu qui nous soutient, nous encourage et nous donne la paix, sois au milieu de nous. Amen. Laisse-nous, Seigneur, entrer.
Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous chanter chez toi. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi.
Nous louons Dieu avec le psaume 37, dont je vous lis quelques extraits. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit, comme en plein midi. Les lèvres du juste redisent la sagesse et sa bouche énonce le droit. Et la loi de Dieu est dans son cœur, il va sans craindre les faux pas. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui un refuge. Et nous chantons les strophes impaires du cantique 12-01, « Je louerai l'Éternel ». prenez place.
Alors, je m'adresse d'abord aux plus jeunes, et ensuite, s'ils ne répondent pas, aux moins jeunes. Alors, qu'est-ce que c'est ? Comment ça s'appelle, ce truc-là ? Quelqu'un a une idée ? Hein ? Comment ça s'appelle ? Non ? Ah, quelle timidité ! Alors, on va aller. Comment ça s'appelle ?
Les tables jaunes. Qu'est-ce qu'il y a sur la table ?
Plus fort, j'entends pas, moi, je suis vieux, moi. Une table ? Non, pas ça, ça. Le truc sur lequel j'ai tapé, ça s'appelle comment ? Table de communion. Pas un autel, comme on entend parfois. Hein ? Alors, parfois, quand je fais visiter le temple à des gens, ils disent, mais on a le droit de toucher ? Est-ce qu'on a le droit de toucher ?
Non ?
Alors moi, je leur dis, vous pouvez la toucher, vous pouvez même danser dessus, mais j'aimerais autant que vous ne le fassiez pas. Et j'expliquerai tout à l'heure au plus grand pourquoi ce n'est pas une bonne idée de danser dessus. Mais c'est une table. Et à quoi elle sert, cette table ? Pourquoi il y a une table ? Parce que je lis. Ouais.
Pour poser des livres dessus.
Ah ben, au moins tu observes, c'est bien. Tu as raison. Et quel livre on pose dessus ?
C'est pas moi.
Et c'est quoi ce livre qu'on a posé dessus ?
La Bible.
La Bible. Mais est-ce qu'on a forcément besoin d'une table pour poser une Bible ? À quoi elle sert ? Pourquoi on a une table ? Qu'est-ce qu'on fait généralement sur une table ?
On mange.
Et à quel moment, on en a déjà parlé une fois il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qu'on fait sur une table ? Comment est-ce qu'on mange au culte ? Ouais ? Donc tu as une idée ? Non ?
Alors,
vous partez toujours avant aussi, donc évidemment. Hein ? On appelle ce qu'on appelle la scène, le repas, on partage le pain, le vin ou le jus de raisin. Donc c'est important, on a une table, il y a des églises protestantes, en Suisse notamment, où on fait tellement peu la scène qu'il n'y a pas de table. On la met juste les dimanches. On rajoute une table le dimanche qu'il y a scène. Je crois qu'ils le font 3 ou 4 fois par an. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre chose ? Qu'est-ce qui est important ? Non. On a une table. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qui est important ? Vous voulez construire un temple ? Qu'est-ce qu'il vous faut ? La croix, c'est bien, ouais. La croix. Quoi d'autre ? Ça. Comment ça s'appelle ? Ah, c'est plus compliqué. Hein. Alors, on demande aux catéchumènes, comment ça s'appelle, ce truc-là ? Ça. Dans un temple. Plein de timidité aussi chez les plus grands. Une église de timide.
La chair.
La chair. Avec un rebut. Ah bah ouais, non mais bon. Pour avoir le courage des opinions. La chair. C'est là dont l'endroit dont on parle. Alors, il y a d'autres endroits importants, mais une église, en tant que protestant, généralement, il y a une table, une chair, une croix. Et puis, c'est quand même bien qu'il y ait des bancs. Hein, il y a des bancs, c'est utile. Ou des chaises. Voilà. Eh bien, en plus, les enfants, ça s'est voyé un peu plus grand. On va écouter l'histoire de Naaman. Vous l'avez déjà fait ?
Naaman, le lépreux, oui.
Ouais. C'est la première qu'on a appris. C'est la première, tu vois. Vous voyez comme quoi tout ce qu'on dit n'est pas forcément perdu. On ne pas. Et on parlera tout à l'heure de Naaman, le lépreux. Enfin, les preuves guéris, ok. Bien, moi, je vous propose de reprendre une strophe de Je louerai l'Éternel. La première, par exemple, on peut, pendant que les enfants regagnent leur lieu de travail.
Prenez place. Ça me chagrine ces bancs vides devant. Il faudrait que pendant que les petits partent, vous avanciez. Ah ben je vous remercie. Je me sens moins seul. Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus entre dans un village et 10 lépreux viennent à sa rencontre. Ils se tiennent à distance et ils se mettent à crier « Jésus, maître, aie pitié de nous !» Jésus les voit et il leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y vont, ils sont guéris. L'un d'entre eux, se voyant guéri, revient sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix. Il tombe face contre terre aux pieds de Jésus et lui rend grâce. C'est un Samaritain. Jésus prend la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Il ne se trouvait-il que cet étranger pour revenir et rendre grâce à Dieu ?» Jésus dit au Samaritain « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Cherchez d'abord le royaume de Dieu. 14:09.
Cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez d'abord sa justice, et toutes les choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia.
Prenez place. Nous prions. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné la vie, ce que nous avons de santé et d'intelligence. Tu nous as donné un abri, le sel et le pain, la foi et l'espérance. Et nous ressemblons aujourd'hui aux 9 lépreux qui sont guéris mais enfermés dans leur ingratitude. Nous voulons te remettre tout ce qui nous empêche de nous agenouiller à tes pieds pour te rendre grâce et te remercier. Peut-être le premier lépreux n'est-il pas revenu parce qu'il avait hâte de retrouver les siens. Pardonne notre impatience qui nous empêche de nous arrêter pour discerner l'essentiel. Peut-être le deuxième lépreux n'est-il pas revenu parce qu'il avait du travail en retard et qu'il devait le rattraper. Libère-nous de des soucis et de l'agitation qui éparpille et qui nous éloigne de ta paix. Peut-être le troisième lépreux n'est-il pas revenu parce qu'il n'était pas sûr que la guérison venait de Dieu, ou tout simplement il n'avait pas eu de la chance. Pardonne notre méfiance et nos soupçons qui nous empêchent de t'accueillir comme Seigneur de notre maison. Peut-être le quatrième lépreux n'est-il pas revenu parce qu'il a douté. Il voulait d'abord s'assurer que la guérison durerait. Pardonne notre incrédulité qui nous empêche de te faire confiance. » Peut-être le cinquième lépreux n'est-il pas revenu parce qu'il voulait faire plus que simplement remercier, alors il n'a rien fait. Pardonne notre velléité qui nous empêche de nous enraciner dans la prière et la persévérance. Peut-être le sixième lépreux n'est-il pas revenu parce qu'il s'est dit qu'il ferait demain. Et demain, il a oublié. Pardonne notre amnésie qui nous éloigne de la reconnaissance et de la fidélité. Peut-être le septième lépreux n'est-il pas revenu parce que les autres n'étaient pas revenus. Ils ne voulaient pas se démarquer du groupe. Pardonne nos peurs et nos conformismes qui nous empêchent de marcher même seuls à ta suite. Peut-être le huitième lépreux n'est-il pas revenu parce qu'il pensait mériter sa guérison. Il faut dire que c'était un homme qui avait beaucoup travaillé. Pardonne notre ingratitude qui nous fait croire que nous méritons ce que nous avons. Peut-être que le neuvième lépreux n'est-il pas revenu parce qu'il n'était plus un enfant. Il savait que Dieu est au-delà des remerciements. Pardonne notre orgueil qui nous empêche de nous agenouiller comme un enfant devant son Créateur. Jésus dit au dixième lépreux, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Si l'orgueil et l'oubli nous enferment sur nous-mêmes, la louange et la gratitude nous libèrent de nous-mêmes. Je vous invite à vous lever. Que le pardon de Dieu, la grâce du Christ et la liberté de l'Esprit nous relèvent et nous envoient. « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Mon seul abri, c'est toi. Des places. Pour aujourd'hui, deux lectures, une qui fait partie des celles proposées pour ce jour, qui est la première épître aux Corinthiens, chapitre 10. La seconde se trouve dans le second livre des Rois, enfin c'est la première que vous en aurez. Le second livre des Rois, au chapitre 5, c'est donc l'épisode de Naaman, enfin c'est une partie de l'épisode de Naaman, lorsque Naaman est guéri et qu'il veut remercier Élisée de cette guérison. Avant de faire ces lectures, d'entendre ces lectures, nous prions. Voici venir des jours, parole du Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas une famine de pain ou une soif d'eau, mais celle d'entendre la parole de Dieu. Seigneur, regarde notre pays, notre vie et la famine qui y sévit. Nous avons faim de sens et de paroles vraies, soif de nouvelles naissances et de fidélité. Nous avons faim, Seigneur, accueille-nous au festin de ta parole. Nous avons soif, ouvre les écluses de ton esprit. Amen. Donc d'abord la lecture du deuxième livre des Rois, chapitre 5, les versets 15 à 19.
Je vais dire 2 Rois 5, les versets 15 à 19 du coup. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit « Le Seigneur, dont je suis le serviteur, est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit « Puisque tu refuses, permet que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets. Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'au Seigneur. Voici toutefois ce que je prie le Seigneur de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille le Seigneur pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. » Élisée lui dit, « Va en paix. »
Notre deuxième lecture se trouve dans le livre de 1 Corinthiens 10. Nous lirons du verset 31 au premier verset de 1 Corinthiens 11. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Amen.
Et nous chantons... Quoi ? Et nous chantons « Parler au cœur du monde ». Place. Imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Très franchement, je ne suis pas sûr que j'aurais osé celle-là. Ça paraît un peu quand même gonflé, ce genre de propos. Ça semble manquer de modestie. Mais la formulation est intéressante. Il ne dit pas imitez Jésus comme moi je le fais, mais bien imitez-moi comme moi, j'imite Jésus. Alors, ça paraît un peu compliqué quand même cette histoire. Il faut imiter quelqu'un, Paul donc, d'assez inimitable, imitant lui-même quelqu'un de tout à fait inimitable, Jésus. Alors ça, si vous y arrivez, c'est une vraie performance. Hein. D'accord. Mais en quoi faut-il imiter Jésus via Paul ? Dans le fait de s'adapter à chacun, à chacune. Bon, pour Jésus, je vois bien. Pour Paul, en revanche, il faut admettre que l'image que nous avons généralement de Paul est plus celle de l'intransigeance, de l'autorité, voire de l'autoritarisme, que celle de la souplesse et de la compréhension. Mais si nous allons au-delà du sarcasme, il faut nous poser la question. À quoi nous invite l'apôtre ? À tenir compte de la vie de nos interlocuteurs. Faut-il alors se comporter tel un politicien en campagne, promettant tout et son contraire en fonction du public ? Probablement pas. Faut-il renoncer à toute conviction forte et n'avoir pas plus de colonne vertébrale qu'un lombric ? Encore moins. Faut-il fuir à tout prix les conflits ? À votre avis, est-ce ce genre d'attitude ? Est-ce que ce genre d'attitude colle à la peau de ce qu'on sait de l'apôtre Paul ? est-il du genre à avaler les couleuvres? Pas vraiment. Donc il s'agit donc ici d'aucune faiblesse de caractère, tout au contraire. Pour bien comprendre ce dont il est question chez Paul, il faudrait probablement lire l'ensemble des deux chapitres, 9 et 10, voire 11, voire toute l'épître. Malheureusement, ça ne correspond pas au format d'un culte, ni probablement à nos capacités d'écoute. Il est question ici notamment du bon usage de la liberté. Quelques versets avant notre lecture, il y a le célèbre et très discuté « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Du bon usage de la liberté. Y a-t-il thème plus actuel? D'autant qu'il ne faut jamais oublier que l'on est libre, en fait, réellement libre, que si on fait un bon usage de cette liberté. Celui qui vit en Christ n'est lié par aucune contrainte extérieure. Mais dans son amour du prochain, qui est la définition même de la vie en Christ, il choisit de borner sa liberté par la conscience. Non pas la sienne, dit Paul, mais celle de l'autre. Non pas par moralisme ou par peur du conflit, mais parce qu'il agit en toute chose pour l'amour de Dieu. Beaucoup trop d'esprits forts, ou qui se croient tels, sont mus par le désir et le plaisir de choquer. Il y a le fameux exemple, je ne sais pas s'il est vrai, mais on l'a beaucoup entendu, du pasteur qui donnait le reste de la scène à ses poules, juste pour choquer son voisin curé. Alors, si vous croyez que cet exemple, en réalité, moi j'ai un exemple personnel, je me souviens d'une discussion avec un curé, justement, qui nous disait à mon collègue et moi, d'accord, le pain d'après la scène, c'est juste du pain, d'accord, mais vous ne pouvez pas en faire n'importe quoi non plus. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour la fondue, par exemple. Alors on s'est un peu regardé, un peu interloqué avec mon collègue. On lui a répondu, non, bien sûr, tu penses. Et aujourd'hui encore, je me demande en quoi cet usage serait moins noble qu'un autre. La fondue, pensez, c'est le plat sacré, s'il en est. Bon, le curé, il était ardéchois, donc forcément, la fondue, ça lui parlait moins. Mais bon, ce que je reproche à certains chrétiens, dits libéraux, c'est justement ce besoin de choquer ceux qu'ils jugent moins avancés spirituellement qu'eux, ceux qui seraient plus attachés aux vérités révélées, aux dogmes. Cette volonté de montrer à quel point on est libéral et supérieur sans se soucier de la conscience de l'autre. Cela revient non plus à travailler pour la gloire de Dieu, mais pour la sienne propre. Ce genre de comportement n'est pas la preuve d'une grande spiritualité, mais bien au contraire, celle d'une liberté mal utilisée, donc d'une absence de liberté. Vous viendrait-il à l'idée de trinquer devant un alcoolique abstinent pour lui montrer que vous n'avez pas de problème avec l'alcool? Non, bien sûr. Alors pourquoi en serait-il différent en ce qui concerne la spiritualité? Pour citer l'évangile de Matthieu, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Pour mémoire, l'étymologie du mot « scandale » est « piège placé sur le chemin, obstacle pour faire trébucher ». Aujourd'hui, ce sont certains libéraux, et j'insiste sur le mot « certains », bien évidemment, qui font l'objet de mes critiques, mais les autres, tendance, ne perdent rien pour attendre. Je pourrais parler de ceux qui fulminent des condamnations du haut de la chair, de ceux qui brandissent la Bible à l'Assemblée nationale. Pensent-ils vraiment que cela contribue à la gloire de Dieu, à l'avancée de l'Évangile? Je pourrais en parler, mais ce sera pour une autre fois. Car le thème du jour est la liberté. Et là, au moins, avec cela, c'est clair, il n'y a aucune liberté. Ça a au moins le mérite de la clarté. Mais il y a un autre aspect qui, à mon sens, mérite d'être évoqué. C'est le verset « De la même manière que moi aussi je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. » Paul avait même dit au chapitre précédent « J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. » Jusqu'où? Peut-on aller dans la compromission? Puisque tout est permis, on pourrait répondre qu'on peut aller jusqu'au bout, n'importe où. Mais ce serait oublier la deuxième partie de la phrase. Tout n'édifie pas. Et je citerai ici la phrase de Pierre Desproges, « Aimer son public, ne pas le mépriser, l'élever à soi, ne jamais s'abaisser à lui. » Le but prôné par Paul n'est pas de complaire, mais de sauver. Si nous prêchons un évangile de liberté, nous devons bien sûr vivre dans la liberté, mais nous devons aussi travailler la liberté de notre prochain. Nous devons donc témoigner de nos convictions et ne pas passer pour quelqu'un qui n'en aurait aucune. Pour cela, nous avons deux exemples, Jésus et Paul. Ils ne dissimulent jamais leurs convictions, mais les affirment dans un langage audible par leurs auditeurs. S'ils sont précautionneux avec les faibles, ils n'hésitent pas à bousculer les forts. Et c'est peut-être là que nous péchons. D'une part, par timidité ou crainte, et d'autre part, parce que justement, nous vivons dans une époque où il n'y a pas tellement de gens forts. Oh, des gens qui se prétendent forts, il y en a des tas. C'est un peu comme les gens qui prétendent avoir de l'humour, qui vous font des vannes toute la journée, puis quand vous les prenez un peu mal, ils vous disent « Ah, mais t'as pas d'humour !» Puis quand vous, vous lui retournez la vanne, quand eux se prennent le machin, ils disent « Ah, c'est pas drôle !» Eh bien, la force, c'est un peu pareil, j'ai l'impression, dans notre société. Il faut l'admettre, nous vivons dans une époque de faux durs et de vrais fragiles. Les croyants, certes, mais pas seulement. J'ai vu une fois un tweet d'une militante qui affirmait que la vue d'une crèche l'agressait. Vraiment ? Je comprends qu'on puisse se sentir agressé par une image de violence, de pornographie, de souffrance. Je comprends qu'on puisse juger que les crèches n'ont rien à faire dans l'espace public. Mais se sentir agressé par la vue d'une crèche, ça révèle un niveau de fragilité assez extrême. Bon, là, vous voyez, je fais du sarcasme, c'est exactement l'inverse de ce que je préconisais tout à l'heure. Mais il ne faut jamais penser que ceux qui roulent les mécaniques sont réellement forts et qu'on peut se permettre de les bousculer. Témoigner avec conviction que notre foi nous permet de supporter les propos qui lui sont contraires. Et j'aimerais ici, pour évoquer en conclusion, le passage du deuxième livre des Rois que nous avons entendu tout à l'heure. Il parle d'une rencontre entre un prophète juif, Élisée, et un général syrien, Naaman. Celui-ci voudrait, ce qu'on peut appeler, se convertir, mais il a un problème. Ses activités socio-professionnelles l'obligent à accomplir un acte qui s'apparente assez franchement à de l'idolâtrie. Il demande en quelque sorte une dispense. Bon. Alors, je n'ose imaginer ce qu'aurait répondu le prédécesseur et maître d'Élisée, Élie, dont le nom signifie « Mon Dieu, c'est le Seigneur », proclamation d'une dévotion exclusive. Élie l'aurait sans doute assez mal pris. Mais Élisée répond « Va en paix ». Élisée, dont le nom signifie « Dieu sauve ». Dans l'histoire, « Mon Dieu sauve ». Dans l'histoire, certains croyants ont dû dissimuler leur foi, car ils craignaient pour leur vie. Si vous avez lu le cycle de Robert Merle, « Fortune de France », vous savez qu'on disait de ces crypto-protestants qui allaient à la messe pour ne pas se faire repérer, qu'ils calaient la voile. Ils baissaient la voilure. Calvin, eux, parle d'eux assez durement dans un premier temps, il les appelle les Nicodémites, du nom de ce pharisien qui va rencontrer Jésus de nuit en cachette. Dans un deuxième temps, il lui a fait remarquer que c'était un peu facile de critiquer quand on était en sécurité, donc il a écrit « Excuse à messieurs les Nicodémites ». Et nous avons peut-être parfois l'impression d'être des Nicodémites, de caler la voile, de faire le dos rond. C'est un problème que nous avons à régler avec notre conscience. Mais si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et notre Dieu sauve. Ce Dieu qui nous sauve nous dit, par la bouche du prophète qui porte ce nom-là même, « Va en paix. » Va en paix. Thank you.
Nous reprenons le cantique de la dernière fois qui s'appelle « Sur nous, merveille », qui est une version alternative de celui qui se trouve dans vos recueils. On va se suivre plutôt là-dessus. Restons debout pour confesser notre foi. Elle se trouve soit sur le livret au numéro 7, soit vous l'avez ici projeté. Je crois en Dieu, le Père. Je crois qu'il a créé le monde pour l'être humain. Je crois qu'il a tout créé dans la même joie et le même émerveillement. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu chez nous et pour nous. Il a vécu comme nous, mais en allant jusqu'au bout de la vérité, de l'amour et du don. Je crois en l'Esprit Saint, pour qui le monde reçoit la vie et l'amour, et qui rend possible toute justice et toute espérance. Je crois que nous ne sommes pas des individus isolés, mais un peuple, le peuple de Dieu, son Église, signe d'amour et d'unité, signe de la présence et de la tendresse de Dieu. Je crois que le monde est déjà sauvé, que le mal est déjà vaincu, que l'être humain est déjà renouvelé. Mais je sais que cette résurrection doit se faire chaque jour, jusqu'à ce que Jésus revienne et nous rende semblables à lui. C'est pourquoi j'attends un monde nouveau. Seigneur, que ton règne vienne. Amen. Mon ancre et ma voile.
Je tue ma vie.
C'est à vous, jeunes gens.
Voici venu le moment de l'offrande. Donner, c'est célébrer le don de Dieu. Ce que nous avons, nos ressources, c'est par la grâce des talents que Dieu a mis en nous que nous pouvons en profiter. Nous n'en sommes que bien temporairement des gardiens.
Héritiers des moissons d'hier, donnons librement et avec joie pour les moissons de demain. Comme Paul l'a écrit dans 2 Corinthiens 9, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte.
Ah, mais allez jusqu'au bout. Hein. Oui. Alors c'est le temps, le moment des annonces. Alors il y a une annonce assez stupéfiante, on n'a pas l'habitude, mais notre président a pris des vacances. On peut compter ces jours, je crois ces dimanches-là, sur le doigt d'une main.
De Pierre n'est pas là, je vais essayer de faire les quelques annonces et de faire les quelques merci. Je n'oublie personne. Donc merci à Vincent, nos orguides et nos sculptes. Merci aux quelques jeunes qui ont fait la, qui sont allés chercher les sous pour la paroisse. Bravo. Merci à nos musiciens qui nous ont accompagnés. Et merci à Yvon C. Bravo. Ouais. Et merci à Yvon Serge de m'avoir, d'avoir préparé tout le temple. Je suis arrivé ce matin, tout était prêt. Merci à Yvon Serge. Les quelques annonces, donc Agnès et Antoine qui ont préparé, qui se sont débattus avec la projection, comme à chaque fois. Oui, d'ailleurs, la confession de foi, c'était pas la bonne. Il faut toujours un peu d'imprévu. Donc, mardi soir, il y a comme tous les mardis soirs la chorale, j'imagine. Nous avons un groupe de prière mercredi à 18h. Nous aurons un conseil presbytéral jeudi, le dernier pour certains conseillers. Voilà, il y a quelques conseillers qui nous quittent cette année. Et il y a une soirée Bible en partage, une soirée œcuménique, Bible en partage, vendredi soir, 18h30, c'est ça ? Bon, personne n'est au courant, mais apparemment, n'hésitez pas à venir. Et est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Je vous en prie. C'est tout bon ? C'est ça ? C'est 18h30. Super. Donc n'hésitez pas à venir. Jean-David ?
Peut-être, ça a déjà été dit, le dernier culte de famille, mais si des gens n'étaient pas là, le groupe Pain, Parole et Partage va retrouver des amis qui ont déménagé, Frédéric et Véronique Parmentier notamment, et puis Irma, on va les retrouver dans la Drôme le week-end du 23 et 24 mars. S'il y a des gens qui veulent se joindre à nous,
Attends, j'en avais... viens le dire dans le micro, parce que je crois
ouais.
que...
Ça... Mais effectivement, ils ont... ça a été là que t'es dit, mais n'hésite pas à le redire.
Alors, j'espère que je ne vais pas parler. Donc, le groupe Pain, Parole et Partage part en week-end pendant la Drôme les 23 et 24 mars pour retrouver des membres du groupe et de la paroisse qui ont déménagé depuis. Frédéric et Véronique Parmentier, vous connaissez certainement, et puis Irma, qui était... Je n'ai plus son nom en tête, qu'elle a joué. Enfin bon, François avait déjà signalé le fait le mois dernier. Il y a peut-être des gens qui n'étaient pas là ou qui ont noté puis qui ont oublié. Pas comme si ça m'arrête jamais. Donc, si ça vous dit, ben le mieux, c'est de contacter François. On est quand même bien avancé dans l'organisation, mais je pense qu'une ou deux personnes en plus, ça doit pouvoir se faire. Voilà, merci de votre attention.
Je vous invite à la prière d'intercession. Dieu notre Père, nous voulons te prier pour tous les oiseaux du monde et surtout pour ceux à qui nous donnons des noms d'oiseaux. Nous te prions bien sûr pour ceux que nous appelons mon poussin, mon canard, ma poulette, tous ceux qui avec ou sans surnom nous aimons. Nous te prions également pour ceux que nous appelons vautours et pour les faucons de guerre, ceux qui croient pouvoir puiser leur force et leur vie dans la faiblesse et la mort des autres. Donne-nous d'être face à eux témoins vigilants. Donne-nous ton esprit de prophétie qui dénonce l'oppression et annonce la justice. Nous te prions pour ceux qu'on appelle les pigeons. Donne-nous d'accepter de faire aux yeux du monde partie de ces gens-là. Donne-nous de réaliser la parole « heureux les doux, heureux les simples ». Nous te prions pour les triples buses, les bécasses, les têtes de linotte. Donne-nous d'accueillir avec amour et patience les limites de nos frères et sœurs. Donne-nous la lucidité et l'humour nécessaires pour reconnaître et assumer notre propre limite. Nous te prions pour ceux que nous voyons majestueux comme des aigles. Libère-nous de l'aigreur et de l'idolâtrie, et permets-nous de prendre place au service des autres. Fais sortir leur tête du sable aux autruches et fais atterrir un peu les albatros. Donne aux coqs l'humilité et rends aux moineaux la dignité. Nous te remercions pour les colombes, annonciatrices de paix et d'espoir, pour les alouettes porteuses d'espérance et pour les pinsons qui nous communiquent leur joie. Seigneur, que ton royaume germe sur la terre et qu'il rassemble dans son feuillage tous ces oiseaux que nous sommes. Et nous te disons ensemble la prière de tes enfants, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Jean Chrysostome, Jean Bouche d'Or, a dit « Quand tu t'assieds pour lire la parole de Dieu, demande-lui d'abord d'ouvrir les yeux de ton cœur afin de ne pas seulement lire les Écritures, mais aussi les accomplir. Nous nous sommes assis, nous avons prié pour que Dieu éclaire notre compréhension, nous avons médité les Écritures. Il nous reste encore un bout de chemin à parcourir. Vivons ce que nous avons compris de l'Évangile. Je vous invite à vous lever. Dieu ouvre les yeux de notre cœur, il nous donne d'accomplir les Écritures. Que sa lumière soit votre phare de votre chemin, que sa parole soit le sel de votre semaine, que sa grâce soit l'expression de vos lendemains, l'espérance de vos lendemains, que son esprit vous inonde comme l'eau des fontaines. Allez dans la paix. Amen. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Cantique, psaume 67.
Thank you.
bon dimanche à tous.